Maintenant, rejoignons Danny Dubé et Marc-Antoine Godin qui sont là du côté de Boston. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien.
Bonsoir, bonsoir.
Bon, je débute avec Danny. Nouvelle, donc 4 à 6 semaines pour Shea Weber. Comment tu vois cette perte pour... En fait, on le savait, maintenant c'est confirmé à plus long terme. Mais comment tu évalues la perte sur la brigade défensive du Canadien?
Bien, la perte, elle est évidemment, elle est énorme parce que faut penser aux minutes grugées par le travail de ce bonhomme-là. C'est en moyenne 25-26 minutes par match. C'est l'avantage, le désavantage numérique. C'est moins évident sur l'avantage numérique parce que il y a un seul défenseur qui est utilisé en avantage numérique. 4 attaquants. Mais en désavantage numérique, là, ça fait mal. Et aujourd'hui, ironiquement, le Canadien travaillait sur l'avantage numérique. Pas de problème. C'est sûr qu'il faut améliorer tout ça. Ils ont marqué seulement 3 buts à leurs 30 dernières sorties ou quelque chose du genre. Mais, je t'ai fait une petite statistique que tu vas aimer. J'ai commencé à regarder, en faisant et préparant le match, le différentiel, mais des unités spéciales.
Okay.
Le différentiel des buts marqués en avantage numérique comparé, faire une soustraction avec les buts accordés à l'adversaire. Et je me suis rendu compte, bon, le Canadien moins 6, évidemment, mais je me suis rendu compte que parmi les 14 équipes qui sont dans le négatif, il y en a seulement deux qui ont... En fait, il y en a trois qui sont dans la lutte. Il y en a deux qui, ce matin, sont en série. Une qui est toujours... qui frappe à la porte, c'est Winnipeg. Et donc, tu peux pas marquer des buts en avantage numérique puis en donner plus à l'adversaire en désavantage. Et moi, je pense que la perte de Weber, c'est là où elle va se faire le plus ressentir en désavantage numérique. C'était... Écoute, c'était beaucoup de temps de jeu. C'était des tirs bloqués. C'était des situations... critique. Alors lui, il va vraiment manquer beaucoup dans cette phase de jeu-là et évidemment dans les confrontations, là, ce qu'on appelle les fameux match-up.
Marc-Antoine Godin du site The Athletic, Martin McGuire, on parlait, la twittosphère s'est emballée aujourd'hui.
Oui.
Nick Kiprios a dit ça signifie peut-être la fin de la carrière pour Shea Weber. Et là, après le communiqué du Canadien de Montréal, Kiprios a dit je maintiens mon information, la carrière à long terme, ça peut être quelque chose, on parle d'un tendon, ça peut être extrêmement difficile. Comment tu vois cette situation? Là pour la suite pour chez Weber?
Bien, écoute, la blessure comme telle, c'est difficile de départager là où se termine la cheville et là où commence le pied. Faut se rappeler que, le Dr. Anderson est celui qui a opéré le pied de chez Weber en mars 2018. Alors, est-ce qu'au moment où on a constaté de l'enflure, il y a probablement eu une crainte de voir si c'était relié à cette zone-là qui avait été sur laquelle Weber avait été opéré il y a 2 ans. Alors, une autre blessure qui est peut-être pas nécessairement au même endroit, mais qui est dans la même région, peut-être que ça peut fragiliser encore davantage le défenseur puis créer de l'usure, etc. Mais bon, là-dessus, je suis pas médecin, alors je vais me garder de commentaires, mais c'est sûr que c'est assez particulier de voir à quel point les commentaires de tout le monde, de toute la frénésie médiatique, tout le monde s'est emballé. Et finalement, ben tu constates que sur Twitter, c'était beaucoup plus enflé encore que ne l'était la cheville de Weber.
J'aime bien Marc-Antoine. Merci pour ça, c'est excellent. Mais messieurs,
l'enflure était ailleurs.
Oui, l'enflure était ailleurs.
Il y avait de l'enflure verbale.
Mais messieurs, restons dans l'enflure un petit peu, puis après on va parler de hockey. Parce que là, on demandait de la transparence aux Canadiens. Là, le Canadien doit amener de la transparence. On a dit, on aura des nouvelles d'ici la fin de la semaine. Là, tout le monde disait, on n'est pas transparent. Et est-ce qu'on
cédé. Est-ce que pourquoi tu dis ça, la transparence? Parce qu'il y a eu des changements, puis...
Ben en fait, ce qu'on disait, c'est qu'on devait informer la planète hockey, okay, le monde en général, la situation de chez Weber, et le Canadien a dit, on va en savoir plus au courant de la fin de semaine. Mais entre-temps, tout le monde disait, bon, mais le Canadien garde l'information secrète, on devrait dire l'information, et aujourd'hui, on sort avec cette information-là. L'histoire de transparence, Danny, t'en penses quoi de ça? Est-ce que le Canadien doit tout dire absolument tout le temps?
Ben, quand tu es en mesure de donner l'information, tu possèdes l'information, moi je pense que tu dois donner cette information-là. Ça finit toujours par sortir, puis si tu ne l'as pas donné, souvent elle sort tout croche. Fait que tu es obligé de finir par mettre de rectifier les choses. Maintenant, les joueurs maintenant se parlent, il y a tellement d'informations qui circulent que moi personnellement, ma vision des choses, c'est que si on est capable de donner un diagnostic qui est clair, avec des prévisions, un retour au jeu dans X temps, etc., etc., moi, je pense qu'on est mieux de le faire. Par contre, il y a certaines situations où c'est un petit peu plus un petit peu moins clair que ça. Si le joueur dit attendez, parce que moi, je veux consulter un autre médecin, si je veux faire une deuxième expertise, si je veux je pense que je suis capable de revenir, donnez-moi le temps d'essayer. Tout à l'heure, on a parlé d'enflure, là. Bon, ça avait été soulevé par Claude Julien. Peut-être qu'on n'est pas en mesure non plus de donner l'information adéquate au moment où elle est demandée, cette information-là. Alors, tout ça fait que, à un moment donné, il y a des délais. Là, les délais sont brusqués ou c'est, tout ça s'est ébranlé par une situation extérieure au Canadien de Montréal. Bon, mais à la fin, moi, je pense que Marc-Antoine est mieux placé que moi pour répondre à la question parce que lui, c'est son travail direct. Moi, je fais de l'analyse. Je suis plus en mode réaction et analyse de ce qu'on m'apporte comme information. Puis lui, celui qui va chercher l'information, c'est plutôt le gars qui est assis à côté de moi.
Marc-Antoine, t'en penses quoi, toi?
Ben, écoute, c'est parce que connaître l'information et la transmettre, c'est pas un tout homogène de dire l'information, on l'a ou on ne l'a pas. Il y a des bribes d'informations que l'équipe avait, il y a d'autres bribes d'informations qu'elle attendait d'avoir. Là où c'est problématique, c'est que, par exemple, ce que l'équipe savait, c'était que le joueur était blessé dans la région de la cheville. Elle savait où il y avait l'enflure, c'était visible à l'œil nu. L'équipe savait également que le joueur comptait aller voir un spécialiste au Wisconsin. Normalement, c'est pas Darren Dreger de TSN qui doit dire à tout le monde que Shea Weber s'en va consulter un médecin spécialiste. C'est plus simple que ce soit le Canadien qui le dise lui-même. Maintenant, on s'attend pas, si le diagnostic est pas encore concluant, n'est pas encore déterminé, qu'il n'y a pas de durée d'absence, ben on ne demandera pas à l'équipe d'inventer un diagnostic, d'inventer une durée d'absence. On va attendre d'avoir cette information-là. Sauf que les journalistes posent des questions au quotidien et parce que c'est des situations qui évoluent au quotidien. Alors, les bribes d'informations qui arrivent au quotidien, c'est celles-là qu'on voudrait avoir. Là, c'est arrivé comme d'un seul bloc, une fois que tout était fait. Puis, ça fait en sorte qu'en retenant les bribes d'informations qu'elle aurait pu donner elle-même, l'équipe contribue à cette espèce de frénésie.
Mais il ne faut pas tomber dans la théorie du complot, parce que là, des fois, j'ai l'impression qu'on prend le Canadien à la théorie du complot. Ils ne veulent pas nous dire, mais à un moment donné, c'est parce que quand tu n'as pas l'information, tu ne l'as pas, là.
Exactement.
C'est ce que je disais, où tu as une partie, tu as une partie de l'information, mais de la donner trop rapidement pourrait induire en erreur, parce que tu n'as pas toute l'information. Exact. Donc, tu attends d'avoir assez d'informations pour faire un portrait, comme Marc-Antoine l'a mentionné, puis après, ça évolue de jour en jour. Là, moi, je suis d'accord avec lui, et puis c'est ce qu'on disait d'entrée de jeu quand tu m'as posé la question. Moi, je suis convaincu que l'organisation a tout avantage à laisser le public savoir qu'est-ce qu'il y en est, surtout quand c'est un joueur comme celui-là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des joueurs aussi, ça a moins d'impact, la perte d'un joueur. Mais là, tu parles d'un joueur vedette, tu parles du capitaine. Donc, évidemment, il faut que ce soit... Moi, je pense que si... Il faut que tu donnes des délais, puis là, j'ai pas de leçons à donner, je sais pas. Puis il y a tout ce qui se passe, pour compléter mon affaire, il y a tout ce qui se passe à l'interne aussi. Tu sais, ce que le directeur général veut, ce que le joueur veut. Peut-être que, là, tu voulais compléter, parce que peut-être que aussi, t'as un premier portrait à donner. Dire dans X temps on vous revient, je sais pas trop.
Ouais. Ce qui est délicat, c'est que dans tout ça, c'est qu'on s'en remet souvent à Claude Julien pour être le porte-parole de l'équipe. Claude Julien a les deux mains dans la pâte et il prépare son équipe en vue du prochain match. Il y a une foule de dossiers avec lesquels il doit travailler. Puis peut-être qu'en tant qu'entraîneur, lui-même n'a peut-être pas tous les fins détails que les gens voudraient savoir.
Exact.
Alors, est-ce qu'il est, dans cette situation-là, toujours le meilleur porte-parole? Je le sais pas. On n'a qu'à voir la situation à Edmonton où, dans le cas de la blessure de Connor McDavid, Ken Holland est sorti dans les médias. Il a donné le B.A.B.A. de la situation, puis ça a été réglé. Des communiqués par écrit, ça peut être fait aussi. C'est pas nécessairement à Claude Julien d'avoir à se démêler tout clairement. Ça, parce que des fois, il va se sentir inconfortable.
Mais des fois, messieurs, faut pas traîner trop longtemps, parce qu'on devient impatient, puis là, l'enflure est là, ça c'est sûr et certain. Messieurs, laissons l'enflure de côté, et je veux pas tourner la page trop vite sur Shea Weber, mais c'est quand même 7,8 millions maintenant qui sera sur la liste des joueurs blessés. On était à quoi, une douzaine de jours de la date limite des transactions. Évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver pour le Canadien. Est-ce qu'on commencera à débouler une certaine colline à partir d'une défaite de ce soir? J'ai aucune idée. Mais là, il y a de l'argent disponible. Danny Dubé, est-ce que Marc Bergevin doit faire quelque chose avec cet argent disponible-là?
Ben écoute, moi, la question est entière parce que le week-end est un. Cette semaine est une grosse semaine qui va probablement être déterminante dans la suite des événements pour les décisions. Mais moi, je ne pense pas que le Canadien va faire autre chose que d'essayer de s'entendre avec Kovalchuk. Pour moi, ce serait en tout cas mon premier réflexe. Et de consolider ce qu'il a déjà parce que. Moi, je pense pas que le Canadien est dans la course. Vraiment, là. T'sais, j'aimerais dire qu'ils ont une chance de participer aux séries, mais de façon très réaliste, la situation actuelle comme elle est me fait croire malheureusement le contraire.
Marc-Antoine Godin du site The Athletic, est-ce que c'est un point que tu partages de ton côté?
Absolument. Écoute, l'argent qui est libéré par le fait que Weber se retrouve sur la liste des joueurs blessés, je pense que ça c'est pas de l'argent qui a à être dépensé, pas du tout. Écoute, son absence va faire en sorte qu'il va y avoir des responsabilités additionnelles. Tu sais, on avait amené Marco Scandella, entre autres, pour donner un petit peu de répit au top 3 en défense. Là, le Canadien perd Weber vraisemblablement pour le reste de la saison. Ça va être intéressant de voir si le Canadien va décider de l'échanger à son tour à la date limite des transactions. Mm-hmm. Alors ça va être un dossier à surveiller, mais à mon avis, écoute, le Canadien était déjà dans les câbles, pratiquement éliminé avant même que Weber se blesse. Là, si tu regardes l'état de la ligne bleue d'ici la fin de la saison, je pense pas que les chances du Canadien de revenir dans la course ont été améliorées. Là.
Et d'autant plus que ce soir, ça tombe que le Canadien affronte une pas pire équipe. Première équipe au classement général, meilleure équipe à domicile, et 19 points de classement séparent le Canadien de Montréal et les Bruins. Danny, est-ce que le Canadien a une chance ce soir?
Toujours une chance. Okay. Ici, le tableau de bord... Tout est allumé. C'est une équipe différente qui affronte les Bruins de Boston. C'est sûr que les Bruins sont plus forts, là. Bien, on parle pas de la force des deux équipes. On parle de la meilleure équipe, la plus acharnée, pour un soir donné. Et tout est possible. Puis moi, écoute, Rask est devant le filet. Rask, il perd son code postal quand il joue contre le Canadien. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Il se souvient plus comment faire.
OK.
Tu sais, je pense que... Et Rask est un super gardien.
C'est
moi,
quand
j'adore.
Même lui que la meilleure moyenne de buts alloués dans la Ligue nationale à 2,14.
Je sais. Mais il y a un très bon gardien de réserve aussi ici. Là. Les deux se partagent le travail. Je veux dire, il y a peut-être la meilleure moyenne, là, mais il a joué 32 matchs, l'autre a joué 26.
Écoute, contre le Canadien, il a quand même une fiche perdante en carrière. 12 victoires, 17 défaites, puis 4 matchs perdus en prolongation.
C'est ça.
Ça, c'est clair. Marc-Antoine, de ton côté, si on regarde les Bruins de Boston, je regardais l'équipe, là, quand t'as un Pasternak, t'as un Bergeron et t'as un Brad Marchand sur le premier trio, ouais. Écoute, ça peut être compliqué pour le Canadien, comme ça sera un beau défi. J'aime bien le positivisme de Danny, mais ça sera tout un défi pour le Canadien de Montréal.
Oui, c'est clair, mais je rappellerai à Danny cependant que c'est pas à chaque fois que le Canadien vient à Boston qu'il est une équipe différente. Je me souviens que le grand retour de Claude Julien à Boston s'était fait dans un contexte où le Canadien s'était complètement écrasé la première fois.
Oui.
T'es
pas obligé d'en parler.
Non, je sais. Mais quand même, je me le permets.
Tu craches dans soupe, là, Marc-Antoine.
Ouais, c'est ça. Ben, voilà. On a un choix à faire.
Non, hey, mais wow. Je suis en tourner en rond.
Mais t'as raison. Mais écoute.
Mais cela étant dit, écoute, c'est sûr, n'importe quel adversaire qui se présente au Garden de Boston, c'est une lourde commande que d'affronter cette équipe-là. Et... Danny, tout à l'heure, évoquait le fait que la priorité devrait être de faire signer un nouveau contrat à Ilya Kovalchuk. Ben moi, je vais vous dire qu'Ilya Kovalchuk cadrerait drôlement bien dans l'uniforme des Bruins. Les Bruins sont à la recherche d'un attaquant en ce moment pour pouvoir compléter leur top 6, sinon leur top 9. Mais tu regardes que de part et d'autre de David Krejci, ça a été un peu des portes tournantes depuis le début de la saison. Ils peuvent rajouter un petit peu de mordant en attaque. Ils n'ont pas beaucoup d'espace, si je ne m'abuse, sous le plafond salarial. Puis ajouter un gars comme Kovalchuk, je pense que ça pourrait vraiment leur convenir. Maintenant, est-ce que le Canadien serait à l'aise, d'une part, de se départir de Kovalchuk et en plus, leur filer à ses ennemis jurés? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense que c'est quand même un dossier qui va être intéressant à suivre dans les prochains jours.
Messieurs, en conclusion, il nous reste à peine une minute. Je veux juste qu'on prenne quelques instants pour parler de Jay Bouwmeester, hier, qui s'est effondré sur le banc des Blues de Saint-Louis dans le match face aux Ducks d'Anaheim. On dit qu'il a eu un problème cardiaque, il a été à l'hôpital, il était conscient lorsqu'il est sorti. C'est vraiment une scène hallucinante. Le match a été reporté. Danny, écoute, ça va avoir un impact quand même sur l'équipe. Jay Bouwmeester, c'est un gars important chez les Blues de Saint-Louis.
Ouais, c'est un gars important chez les Blues. Ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact certainement sur l'utilisation du personnel. C'est un gars qui prend bien des minutes. Puis aussi sur... moi, je pense que dans la Ligue nationale, ça envoie un message assez puissant là sur les examens médicaux des joueurs, sur l'aspect cardiaque, sur le travail en anaérobie au hockey sur glace, quand t'es à quel point t'es souvent en phase optimale anaérobique là, ça veut dire que tu manques d'oxygène pendant une fraction de seconde. Ben quand je dis tu manques, tu perds pas le souffle là, mais je veux dire t'es à bout de souffle et je pense qu'à un moment donné là il y a en tout cas, je connais pas sa situation là, et quelle est sa condition, mais pour moi ça m'interpelle beaucoup. Je veux dire, si vous voyez une affaire comme ça là, c'est sûr que dans le plus de la phase préventive de tout ça, ça m'interpelle énormément.
Écoute, Yeri Fisher, Alexei Sherepanov, Rich Peverley, Craig Cunningham. Maintenant, Bo Mister, je trouve que ça fait plusieurs cas du genre en l'espace de 15 ans dans le hockey. On voit pas ça dans les autres sports professionnels.
Marc-Antoine Godin du site Athlétique, Danny Dubé, merci énormément d'avoir été avec nous. Puis Danny, on t'écoute à compter 19h pour l'émission d'avant-match.
Tout un match.
Tout un match. On crache pas dans la soupe, Danny.
Non, monsieur.
Jamais.
Non.
Merci, Danny. Merci, Marc-Antoine. Salut. S'arrête quelques instants. De Boston, je vous amène à Rimouski parce que l'animateur des amateurs de sport, Mario Langlois, est sur place afin d'y rencontrer le premier choix potentiel lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Alexis Lafrenière. Mario est avec nous au retour. Restez là.